Je me fis cueillir par un officier dès le premier pas. Je me tenais devant le billard et je barrais la route sans le savoir. Lui, il voulait passer. Il me prit donc par les épaules et, sans rien dire, sans me prévenir, sans m'expliquer, il me déplaça de l'endroit où j'étais jusqu'à un autre et il continua comme s'il ne m'avait pas remarqué. J'aurais pu pardonner, sans doute, les coups, mais je ne pouvais absolument pas pardonner qu'il me déplace et que d'une façon aussi radicale, il ne me remarque pas. Dieu sait ce que j'aurais donné alors pour une dispute plus normale, plus décente, plus, n'est-ce pas, littéraire. Il m'avait traité comme une mouche. Cet officier, il faisait bien 7 pieds de haut. Moi, je suis un homme chétif, malingre. Mais la dispute, elle dépendait quand même de moi. Il suffisait que je proteste. Ça n'aurait fait ni une ni deux. Je passais par la fenêtre. Mais je me suis ravisé. J'ai préféré m'effacer rageusement. Je sortis de la guinguette troublé, bouleversé, et le lendemain, je poursuivis mes débauches d'une façon encore plus timide, plus cachée et plus triste, la larme à l'œil ou presque. Mais je poursuivis quand même. Ne croyez pas que j'ai été lâche par lâcheté devant l'officier. Au fond du cœur, je n'ai jamais été un lâche, même si, sur le fait, j'ai toujours été lâche, mais ne riez pas encore. J'ai une explication. J'ai une explication pour tout, soyez-en sûrs. Oh, si cet officier avait été de ceux qui acceptent de se battre en duel. Mais non, il appartenait justement à ce genre de messieurs, hélas disparus depuis longtemps, qui préfèrent se battre à coups de queue de billard, ou, comme le lieutenant Pirogov chez Gogol, par la voie hiérarchique. Ils refusaient les duels et, avec nous autres les Pékins, ils estimaient de toute façon qu'un duel eût été indécent. En général, ils pensaient que les duels sont quelque chose d'impensable, de libertin, de français. Mais ils humiliaient les autres tant qu'ils pouvaient, surtout avec 7 pieds de haut. J'ai été lâche, mais non par lâcheté, par une vanité incommensurable. Ce ne sont pas les 7 pieds de haut qui m'ont fait peur, ni les coups que j'aurais pu recevoir, ni mon vol plané par la fenêtre. Du courage physique, je vous le jure, j'en aurais eu. Il m'a manqué le courage moral. J'ai eu peur que tous les témoins, depuis cette canaille de croupier jusqu'au dernier rond de cuir boutonneux et puant, qui se faufilait là avec son col graisseux, ne comprennent pas et qu'ils ne se moquent quand je me serais mis à protester et à parler une langue littéraire. Parce que le point d'honneur, c'est-à-dire pas l'honneur, je dis bien le point d'honneur, on ne peut pas toujours en parler chez nous autrement que dans une langue littéraire. La langue normale ne connaît pas de point d'honneur. J'étais fermement convaincu, le sens de la réalité, malgré le romantisme, qu'il ne ferait rien d'autre qu'éclater de rire et que l'officier ne se contenterait pas de me cogner simplement, c'est-à-dire sans offense, qu'il me mènerait à coups de pied au cul tout autour du billard et qu'il ne me prendrait en pitié qu'ensuite pour me jeter par la fenêtre. Vous imaginez bien que cette histoire misérable, pour moi, ne pouvait pas se terminer de cette façon. Après, j'ai souvent rencontré cet officier dans la rue, et je l'ai bien étudié. Ce que j'ignore, c'est s'il me reconnaissait, moi. Sans doute pas. Je déduis cela de certains signes. Mais moi, je lui lançais des regards haineux, méchants, et le manège a duré, plusieurs années pour vous servir. Ma rage ne faisait même que s'endurcir, que croître avec le temps. J'ai commencé d'abord en douce, par faire mon enquête sur cet officier. C'était très difficile, je ne connaissais personne. Mais une fois, quelqu'un dans la rue l'a appelé par son nom, alors que je le suivais de loin, comme si j'étais collé à lui, et donc j'ai su son nom. Une autre fois, je l'ai suivi jusque chez lui, et moyennant 10 kopecks, j'ai demandé son adresse au concierge, à quel étage, s'il vivait seul ou non, etc. Bref, tout ce qu'on peut demander à un concierge. Un beau matin, moi qui n'avais jamais donné dans la littérature, j'ai soudain eu l'idée de décrire cet officier sur le mode dénonciateur, comme une caricature, sous forme de nouvelle. Cette nouvelle, quel plaisir de l'écrire. Dénoncé, je l'ai même un peu calomnié. J'ai transformé son nom d'abord de telle sorte qu'on pouvait le reconnaître tout de suite, mais plus tard, après mûre réflexion, je l'ai changé et j'ai envoyé le paquet aux notes patriotiques. Mais les dénonciations n'étaient pas encore à la mode et ma nouvelle a été refusée. J'en ai été très mortifié. La rage en arrivait parfois à m'étouffer. À la fin, je me suis décidé à provoquer mon ennemi en duel. Je lui ai composé une lettre magnifique et séduisante en le suppliant de s'excuser auprès de moi. Au cas où il refuserait, je faisais une allusion assez nette à un duel. La lettre était composée de telle sorte que si cet officier avait eu la moindre idée du beau et du sublime, il serait accouru me chercher, se jeter dans mes bras et me proposer son amitié. Et comme ça aurait été bien! Quelle vie nous aurions eue! Quelle vie! Lui, il m'aurait défendu par sa prestance. Moi, je l'aurais ennobli par ma culture et, bon, oui, par mes idées. Et tant de choses, Dieu sait, auraient pu survenir. Figurez-vous que 2 ans s'étaient passés depuis l'offense et mon cartel aurait été le plus invraisemblable des anachronismes, malgré toute l'habileté de ma lettre qui expliquait et camouflait cet anachronisme. Mais Dieu merci, jusqu'à présent, j'en remercie le Très-Haut les larmes aux yeux. Cette lettre, je ne l'ai pas envoyée. J'en ai froid dans le dos quand je pense à ce qui serait arrivé si je l'avais envoyée. Et puis, je me suis vengé de la façon la plus simple, la plus géniale. Une idée lumineuse me traversa soudain l'esprit. Parfois, les jours de fête, je faisais une promenade sur le Nevski après 3 heures, côté soleil. C'est-à-dire, je ne me promenais pas, je ressentais des souffrances infinies, des outrages, des épanchements de bile. Mais c'est sans doute ce que je recherchais. Je vrillais comme une toupie, de la façon la plus laide possible, entre tous les passants, cédant la route à chaque seconde devant les généraux, les officiers de chevaliers-gardes et de hussards, ou bien les demoiselles. À ces instants, je ressentais des douleurs convulsives dans la région du cœur et des brûlures dans le dos à la seule pensée de la misère de ma mise, de la misère et de la vulgarité de mes mouvements d'anguille. C'était un vrai martyre, un outrage constant, insupportable à l'idée, laquelle idée se transformait en sensation constante et immédiate, que j'étais une mouche, que j'étais devant tout ce monde, une mouche vilaine et sale, la plus intelligente, la plus cultivée et la plus noble des mouches, ça va sans dire, mais une mouche qui cédait constamment, que tout le monde rabaissait, que tout le monde humiliait. Dans quel but m'accablais-je de cette torture? Pourquoi allais-je sur le Nevski? Je n'en sais rien. Mais il y avait quelque chose qui m'aimantait littéralement là-bas, sitôt que je le pouvais. À l'époque, je commençais déjà à ressentir les accès de ces jouissances dont j'ai parlé dans le premier chapitre. Pourtant, après l'histoire de l'officier, je me sentais aimanté vers cela de plus en plus. C'est sur le Nevski que je le rencontrais le plus souvent. C'est là que je pouvais l'admirer. Lui aussi, il se promenait là, plutôt les jours de fête. Même si lui aussi, il prenait la tangente devant les généraux ou les grands de ce monde, et si dans ces cas-là, il filait aussi comme une anguille, les gens comme votre serviteur ou ceux qui sont un peu plus haut que votre serviteur, il leur marchait dessus tout bonnement. Il allait droit sur eux, comme s'il n'y avait devant lui qu'un espace vide, et ne cédait la route sous aucun prétexte. Je m'enivrais de rage quand je le regardais. Rageusement, j'obliquais chaque fois devant lui. Cela me torturait, que même sur un trottoir, je me trouve incapable de devenir son égal. « Pourquoi est-ce que tu tournes toujours le premier ?» me demandais-je sans fin ni cesse, me réveillant parfois à 2 heures du matin dans une crise d'hystérie furieuse. Pourquoi est-ce que c'est toi et pas lui? Il n'y a aucune loi pour ça, ce n'est écrit nulle part. Vous pourriez le faire à parts égales, comme c'est le cas d'habitude quand 2 personnes délicates se rencontrent. Lui, il te cède la moitié, tu fais pareil, et vous passez dans un respect mutuel. Mais non, ça n'arrivait jamais comme ça, c'est moi qui obliquais toujours, et lui, il ne remarquait même pas que je lui cédais le passage. Or donc, je fus soudain saisi par la plus étonnante des idées. « Et si, me dis-je, et si, quand je le rencontre, je ne me poussais pas ? si je ne me poussais pas exprès, même s'il fallait que je lui rentre dedans, qu'arriverait-il? Cette idée téméraire s'empara peu à peu de moi, elle ne me laissa plus en repos. Je commençais à en rêver sans cesse, d'une façon terrible, et je me mis exprès à me promener plus souvent sur le Nevski pour me représenter le plus clairement possible comment je le ferais et quand je pourrais le faire. Je vivais sur un nuage. Cette intention me paraissait de plus en plus vraisemblable, réaliste. Pas le cogner vraiment, bien sûr, me disais-je, tremblant de joie à l'avance, mais simplement ne pas me pousser, me retrouver contre lui, pas pour que ça fasse bien mal, mais comme ça, épaule contre épaule, juste pour les convenances, que je le cogne juste autant que lui. J'ai fini par me décider complètement, mais les préparatifs m'ont pris un temps considérable. Ce qu'il fallait d'abord, c'est que pendant cet acte, je sois habillé le mieux possible. Je devais donc me soucier de mon costume. À tout hasard, si par exemple il y a une histoire publique, et le public qui se promenait là, en l'occurrence, c'était la hôte, une comtesse, le prince D, toute la littérature, il faut être bien mis. Ça inspire le respect, et d'une certaine façon, ça nous posera tout de suite d'égal à égal devant le grand monde. J'ai donc demandé une avance sur salaire, et je me suis acheté des gants noirs et un chapeau correct chez Tchourkine. Les gants noirs me semblaient plus sérieux, plus comme il faut, que les gants beurre frais que j'avais commencé par ambitionner. La couleur est trop voyante, le type semble trop vouloir se mettre en avant. J'avais renoncé aux gants beurre frais. La belle chemise avec les boutons de manchette en ivoire, je l'avais préparée de longue date. C'est le manteau qui m'a beaucoup retardé. Celui que j'avais de manteau, il était métable, il réchauffait. Mais il était entièrement ouatiné et il avait un col en raton, summum de la servilité. Je devais changer de col coûte que coûte et m'en faire faire un en castor, un peu comme les officiers. Je me suis donc mis à fréquenter le Gostini Dvor et, après quelques tentatives, j'ai fini par viser un castor d'Allemagne pas trop cher. Ces castors d'Allemagne, ils s'éliment vite, évidemment, et prennent l'air le plus loqueteux qui soit, mais au début, quand on les inaugure, ils présentent tout à fait bien. Moi, je n'en avais besoin que pour une seule fois. J'ai demandé le prix, c'était quand même cher. Après avoir longuement pesé le pour et le contre, je me suis décidé à vendre mon raton. Quant à la somme qui me manquait encore, une somme loin d'être négligeable pour mes moyens, je me suis décidé à l'emprunter et à demander cet emprunt à mon chef de bureau, Anton Antonitch Setotchkin, homme plein d'humilité, mais grave et positif, qui ne prêtait en aucun cas, mais auquel j'avais été jadis, à mon entrée en fonction, particulièrement recommandé par le haut personnage qui m'avait placé. Une torture horrible. Demander de l'argent à Anton Antonitch était une chose qui me semblait monstrueuse, infamante. Je n'ai pas fermé l'œil de trois nuits, même si, en général, je dormais peu à l'époque. J'avais toujours la fièvre. Je sentais mon cœur qui se creusait d'une façon bizarre et, tout à coup, se mettait à sauter. Anton Antonovitch fut d'abord étonné par ma demande, puis il fronça les sourcils, réfléchit et accepta, non sans exiger de moi un reçu, lui donnant le droit de percevoir le dit emprunt dans un délai de 2 semaines, prélevé sur mon traitement. Ainsi, tout était prêt. Le joli castor régna en lieu et place du vulgaire raton, et je me lançai petit à petit dans les travaux d'approche. Je ne pouvais quand même pas me décider du premier coup pour rien. Il fallait faire la chose avec méthode, peu à peu. Mais je vous avoue qu'après de nombreuses tentatives, je commençais à désespérer. Nous ne parvenions pas à nous rentrer dedans. Impossible. J'avais beau me préparer, calculer, on avait l'impression que nous allions nous cogner, là, maintenant. Et de nouveau, je lui cédais le passage, et je le voyais passer, sans me remarquer. J'allais jusqu'à faire des prières tout en me rapprochant, que le bon Dieu me donne la force. Une fois même que j'étais décidé définitivement, le seul résultat fut que je me retrouvais dans ses jambes, parce qu'au tout dernier moment, à 2 ou 3 pouces de lui, le courage m'avait manqué. Il m'a marché dessus tranquillement, et moi, comme un ballon, j'ai roulé sur le côté. Cette nuit-là, je fus de nouveau malade, avec la fièvre et le délire. Et soudainement, tout se termina le mieux du monde. La nuit d'avant, j'avais définitivement conclu que je n'exécuterais plus mon intention fatale, que je laisserais tomber. Et c'est dans cette intention que je suis allé une dernière fois sur le Nevski pour voir, tout simplement, comment ce serait quand j'aurais renoncé. Soudain, à 3 pas de mon ennemi, je me suis décidé par surprise. J'ai fermé les yeux et nous nous sommes rentrés dedans, épaule contre épaule. Je ne lui avais pas cédé un pouce. J'avais passé absolument comme un égal. Lui-même, il ne m'a même pas jeté un coup d'œil et il a fait semblant de ne pas m'avoir vu. Mais justement, il avait fait semblant, j'en suis sûr. Jusqu'à maintenant, j'en suis sûr. Il va de soi que j'ai supporté le plus gros du choc. Lui, il était plus fort, mais ça ne comptait pas. Ce qui comptait, c'est que j'avais atteint mon but. J'avais défendu mon honneur, je n'avais pas cédé un pouce et je m'étais placé publiquement au même rang social que lui. Je suis rentré chez moi complètement vengé. J'étais sur mon nuage. Je triomphais. Je fredonnais des arias italiennes. Évidemment, je ne vous raconterai pas ce qui m'est arrivé 3 jours plus tard. Si vous avez lu mon premier chapitre, Le sous-sol, vous le devinerez vous-même. L'officier, lui, par la suite, il a été muté je ne sais pas où. Voilà bien 14 ans que je ne le vois plus. Où est-il maintenant, mon petit ami? Sur qui est-ce qu'il s'essuie les bottes?